Bonjour à tous et bienvenue sur le 120e Comics Weekly. Au sommaire de cette semaine, la nouvelle série Marvel Now qui sortent, notamment Iron Man et Deadpool. On parlera aussi de la fin d'AVX Consequences, de New Avengers ou encore d'Avengers Academy. Du côté de DC, on abordera le Green Lantern et la suite du crossover Rise of the Third Army. Nous parlerons de la suite de Hot World avec Animal Man et Something, Earth 2 et puis des séries Batman. Et enfin, du côté indé, le retour de Shadow Man, la suite de Manhattan Projects ou encore 47 Ronins. Quelques-unes des parutions que l'on va traiter cette semaine. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine, Jean-Lo.
Oui, salut, bonsoir à toutes et tous. Je suis super content d'être là, c'est sympa. Pardon, c'était une imitation ratée de Kinghead, qui nous manque, le pauvre.
Paf.
Nous avons aussi Mister René Benny.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Et Sam.
Bonjour.
Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêt pour une heure de review
de folie au club endiablé
avec de l'énergie à revendre.
Ah, oui, surtout toi, Sam.
Oui, là, on sent mon énergie qui déborde. Et...
Débordante.
Ah oui, elle déborde.
Qui va asperger tout le monde.
Oh non, 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 commence pas les trucs dégueux, là, tout de suite. Tu parles d'asperger et tout. Non,
après, on va être obligé de parler de prépuce. Ce serait dommage.
Non, non, on n'enchaîne pas là-dessus. On enchaîne sur des comics. Ils sont tout à fait respectables, sauf quand ils sont tout pourris.
On commence par le meilleur, donc, cette semaine, avec la sortie du Iron Man numéro 1, nouveau volume d'Iron Man, tagué Marvel Now, ce grand relancement de la franchise Marvel. On repart au numéro 1, mais c'est pas un relaunch, c'est pas un reboot, c'est juste on repart au numéro 1.
Voilà, voilà, relancement, donc. D'accord, ok.
Oui. Oui, oui, on va le dire comme ça. Et puis même si ça se dit pas, on va le dire comme ça quand même.
Ok.
C'est écrit cette fois-ci par Kieron Gillen, dessiné par Greg Land, ancré par Jay Layston. L'équipe ne change pas au niveau du tandem artistique. Hein, toujours Jay Layston qui ancre Greg Land. Alors, le premier truc, c'est qu'on peut dire que malgré tout, c'est peut-être un tracer, mais en tout cas, c'est beau.
Non.
Ah non?
Oh, ça dépend.
Moi, je trouve ça beau. Mais graphiquement, je trouve ça beau. Mais bon.
Il a même réussi à nous placer une blonde et nous replacer Emma Frost.
Oui, sort, moi, mais franchement, ouais, c'est ça, carrément.
Moi, j'ai cru au début qu'ils allaient nous dire qu'ils sortaient avec Emma Frost.
J'y ai cru.
Je me suis dit, oh, tiens, c'est
j'y ai cru
pourquoi
aussi,
pas.
Ouais. Avec Greg Land, toutes les blondes sont les mêmes.
C'est ça.
Bon, par contre, on va parler maintenant de l'histoire et Kieron Gillen qui arrive sur Iron Man. Bon, on peut dire que oui, il y a de l'action. Ça, ils nous avaient promis que ce serait de l'action. Maintenant, est-ce que c'est intéressant?
Non. On va faire simple, non.
Bon, on va résumer très rapidement. L'AIM a trouvé la technologie Extremis.
Voilà. C'est le premier épisode. Fin. C'était très intéressant.
Le pitch est sympa. Le pitch est sympa. Après, le développement,
Il y en a
pas. Il y a du Matt Fraction, quoi.
Écoutez, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que l'histoire de Kieron Gillen et de Greg Land est exactement la même que celle qu'ils ont fait sur leur premier arc des Uncanny X-Men. C'est exactement la même. C'est-à-dire, dans le premier arc d'Uncanny X-Men qu'ils ont fait ensemble, c'était John Sublime qui avait un virus mutant qui mettait aux enchères.
Ah oui, non, ça
c'était
Matt Fraction.
C'est vrai.
Non, c'était Kieron Gillen qui arrivait justement sur le titre.
Oui, mais Matt Fraction était toujours là.
C'était la transition. Oui, mais enfin, qu'importe. Mm-hmm. C'était quand même
oui,
la grosse transition.
Oui, mais je sais de quel arc tu parles, effectivement. C'était, on a tout toute la présentation du pitch par le vendeur du truc. C'est exactement la même qu'on a dans l'arc d'Uncanny X-Men.
Alors, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé ce vendeur, d'ailleurs. Puisque c'est un vendeur de l'AIM, il a un costume jaune. Comme ça, on le reconnaît bien, tu vois. Visuellement parlant, on sait que c'est un mec de l'AIM, quoi.
Oui, merci. Pour...
Qui met au monde des costumes code. Jaunes, franchement? Vous avez déjà vu quelqu'un avec un costume jaune?
The Mask.
Jaune ouais. Oui, non, mais quelqu'un de vrai.
Splendid. Non, mais en tout cas, c'était vraiment la même histoire, quoi. C'est ça qui m'a.
Oui, c'est. Bon. Et c'était pas intéressant la première fois, c'est toujours pas intéressant maintenant. Hein.
Bah, ils nous refont vraiment le même truc, transposé à Iron Man. C'est leur premier arc, alors est-ce qu'on va avoir les mêmes histoires que sur les X-Men? Faudra que je regarde ce qui vient ensuite, parce que je les ai même pas lus, je pense.
Si, on l'avait traité dans les Comic City, alors si, tu les avais lus.
Ouais, ouais, attends. Oui. C'était l'arrivée des extraterrestres, là, du Brick World, ensuite.
Ah oui, ouais. Bah alors, je sais pas s'ils vont nous ressortir un truc comme ça dans Iron Man, parce que bon,
voilà,
bon, ça risque d'être plus compliqué, mais en tout cas, pour une première histoire, c'est ben voilà quoi.
C'est
moi j'avais
bon.
L'impression de relire la même chose que sur les X-Men.
Alors là, du point de vue des vieux lecteurs, je suis d'accord avec vous. Par contre, j'ai essayé de me mettre du point de vue d'un nouveau lecteur et ça remplit parfaitement son contrat. On a plein d'informations disséminées qui nous ramènent à l'essence même du personnage. On sait qui il est, pourquoi, quelles sont ses motivations. En termes de premier numéro, le contrat est vraiment réussi. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a plein de petites phrases comme ça qui t'en donnent un peu plus sur qui est Tony Stark. Chose que nous, vieux lecteurs, on connaît. Mais ouais. En tout cas, pour un lecteur débutant, c'est franchement super simple de comprendre. Mon seul reproche, c'est que pourquoi une armure noire et or, ça, on n'a pas d'explication.
Alors, moi, au niveau graphique, j'ai deux trucs à dire. Le premier, c'est que je trouve que dans les cheveux de Tony Stark, il y a des petits reflets blancs. Je trouve que c'est pas mal. Parce que ça donne un petit peu d'âge au personnage. Et d'autre part, la deuxième chose, c'est que l'armure, justement, noire, qui est noire métallisée, on va dire, ce qui est bien, c'est qu'il y a un passage dans les flammes, où il se retrouve au milieu des flammes, et ça lui donne un aspect un peu rouge à cette armure, qui a un aspect plus classique, on va dire. Et du coup, je trouve que c'est assez sympathique, quoi, comme rouge, ça fait un peu rouge et or, un peu armure classique. Et du coup, je trouve que c'est assez sympa. Mais c'est vrai que sinon, couleur guêpe, ça choque un peu.
Bah, en fait, moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on prend le temps de nous mettre une bulle pour nous expliquer qu'il se rase la moustache, mais qu'elle sera là dans le prochain numéro, en nous expliquant qu'il connaît un scientifique qui lui a assuré qu'en quelques heures, sa moustache repousse. Ça, mais on prend même pas une phrase pour nous expliquer qu'il avait simplement envie de changer de couleur d'armure, quoi. Moi, en fait, j'y suis allé, je me suis dit, pourquoi il a une armure noire et or? Moi, c'est ce qui m'intéressait.
Eh bien, parce qu'il a collé sa moustache dessus.
Non, mais c'est un petit détail con, mais ça me fait chier de ne pas savoir pourquoi son armure, elle est noire maintenant, alors que ça fait 70 ans, enfin, peut-être pas 70 ans, mais ça fait quasiment 50 ans qu'il a une armure rouge, quoi.
Mmh. Enfin, il a eu...
Bon, il a eu d'autres couleurs, je sais, mais...
Il a testé 2-3 couleurs, ouais.
Principalement, c'était du rouge, quoi. Pourquoi là, c'est noir? Bah, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment le truc où je me sens frustré, quoi.
Sinon, bah, il y a le syndrome un peu film Marvel ou film Disney maintenant, c'est le côté nouveau numéro, nouvel Iron Man, il faut que ça pète, et donc il a un nouveau système pour mettre son armure qui est totalement innovant. Il est assez sympa, moi j'ai bien aimé, mais je trouve que ça fait un peu surenchère juste pour vendre, juste pour dire ouais, Iron Man il est cool, et voilà quoi, pour en mettre plein la vue.
Bah, finalement, un premier numéro qui est quand même relativement faible, quoi.
Ouais.
Un peu du déjà vu, pour les anciens lecteurs en tout cas, du déjà vu, c'est joli d'accord, mais on a quand même ce goût de déjà vu, quoi.
La dernière bulle est sympa.
Pour les anciens lecteurs, pas si vieux que ça, hein, quand même, c'était il y a quelques années à peine, quoi.
Oui, mais enfin, quand je dis les anciens lecteurs, c'est vrai que, on va dire les lecteurs chevronnés, quoi. Voilà.
Ouais.
Donc pour moi, ce sera qu'un check-it.
Moi aussi, pareil.
Check-it-moi. Hein.
Check-it-moi pour toi, Sam, et Jean-Lo
check-it pour les dessins, mais pas pour l'histoire. Pour l'histoire, ça sera un pass.
Ok, on va continuer avec l'autre sortie Marvel Now, l'autre numéro 1 de cette semaine. C'est le Deadpool que tu vas nous présenter, Sam.
Oui, écrit par Jerry Duggan et Brian Posehn.
Posehn.
Et dessiné par Tony Moore. Donc, relaunch de Deadpool qui, il y a quelques années encore, se tapait 4 à 5 séries. Donc maintenant, il n'y en a plus qu'une. Pour se dire, ça part bien. Surtout avec un bon pitch avec la résurrection, enfin la transformation des anciens présidents morts des États-Unis en zombies. On se disait, ça part sur un pitch bien délirant, on va bien se marrer. Voilà, Deadpool qui est engagé pour buter ses anciens présidents. Parce que comme c'est expliqué au début du numéro, on n'a pas envie de voir Captain America en train de décapiter des anciens présidents. <C'est>... voilà, ça le fait pas trop. Et donc Deadpool est engagé pour aller les buter. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle une seconde, c'est-à-dire que t'as une vanne à un moment avec Thor qui est plutôt marrante, et c'est tout. Voilà, le reste du truc, j'ai pas rigolé, ouais, bof. Pour des auteurs qui sont censés être des auteurs comiques, je vois pas la vanne, hein, moi.
Et ouais, pourtant, Brian Posehn et Gary Duggan avaient écrit une mini-série qui était plutôt assez sympathique, il y a de ça quelques années maintenant, même pas loin d'une dizaine d'années, c'était The Last Christmas chez Image. J'avais trouvé ça très très bon. Là, en tout cas, moi, ce que tu en dis ne me donne pas envie d'y aller, quoi. J'avais déjà pas forcément envie d'y aller au départ, mais là, j'ai encore moins envie d'y aller. Tu l'as lu, toi, Jean-Lo, aussi?
Oui. C'est sympa, mais bon, c'est pas... Enfin, ça reste quand même dans l'esprit Deadpool, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de blabla, quand même, par rapport à d'autres...
Non, mais moi, je te dis, le principal problème, c'est que c'est pas drôle. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire des vannes, de les placer quasiment dans toutes les pages, et c'est des vannes pas drôles. Donc...
Mais est-ce que c'est pas...
À moins que t'aies 12 ans. Là, oui, t'as 12 ans, ça va être drôle. Mais sinon, c'est des vannes déjà vues qui faisaient déjà pas rire il y a 10 ans, quoi. Donc, ça va pas faire rire maintenant.
Est-ce que c'est pas dû à la nouvelle équipe créative qui essaye de se mettre à la hauteur et qui arrive.
Ouais,
pas
il faut peut-être aussi leur laisser le temps de prendre en main.
Voilà,
le
oui, mais bon, c'est un peu dommage parce que je te dis le.
Quand tu rates
le
ton pitch, numéro 1, le quand pitch, même, moi, généralement, les gens vont pas au numéro 2 et te laissent pas le temps, quoi.
Oui, bah oui, parce que attends, le comics il coûte quasiment 4$. Aujourd'hui, tu laisses pas la chance. Si le premier numéro est à chier, tu vas pas aller voir le deuxième. Hein. Mmh. T'as pas les moyens.
Benny, c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, Deadpool
Bah déjà, moi je tiens à dire que j'ai les moyens déjà. Bon, voilà. Non, je plaisante.
N'allez pas voir Bunny en lui demandant de l'argent maintenant.
Non, ce que je voulais dire, c'est que déjà ça me tente pas plus que ça, puisque Deadpool me tentait déjà plus depuis bien longtemps. Donc là, c'est pas parce qu'il y a marqué numéro 1 dessus que ça va me tenter. L'équipe artistique, je la connais pas du tout. Voilà, le pitch bof, et puis quand on me dit que c'est pas terrible terrible, non, franchement je pense que je vais complètement passer à côté de cette nouvelle série Deadpool. De toute façon, même si elle fonctionne pas, on sait qu'il y en aura encore 36 000 du Deadpool. Mmh. Donc,
Oui.
Ok.
Voilà, donc c'est un tout petit check-it, hein, parce que voilà, Tony Moore s'en sort bien côté dessin. Il essaye vraiment d'insuffler un côté délirant, marrant, enfin un esprit Deadpool. Mais le scénario suit pas, quoi.
Mais même, je trouve que le dessin de Tony Moore est pratiquement trop mainstream. Enfin, il est moins. Il a moins la patte, Tony Moore, qu'il a pu l'avoir
qu'il le fait
sur
exprès, là.
Franken Castle. Ou,
mais il le fait exprès parce que Deadpool, c'est quand même une série plus mainstream que. Bah, que l'était ouais. Franken Castle. Hein.
Ouais, mais
donc
c'est
il
un peu dommage,
de rentrer dans les codes.
Pour moi, c'est un peu de la prostitution, quoi. Quand un artiste se dit, bon, je vais être moins moi-même
voilà.
Que d'habitude, quoi.
Voilà, l'essentiel des idées, elles viennent quand même du dessin et pas du scénario.
Ça dépend. Si les idées elles étaient marquées sur le storyboard.
Oui, mais
le
il les représente bien, quoi.
Ah oui, mais peut-être qu'elles étaient marquées dans le script, là.
Ouais.
C'est vrai
non,
que c'est
qui,
vraiment...
qui a fait le scénario. En fait.
Qui se concentre un peu plus sur les dialogues, quoi. C'est de faire un truc drôle, quoi. Bon, j'ai arrêté de dire quoi, parce que ça commence.
Donc, check it pour toi, Sam, pour toi, Jean-Lo.
Tout petit. Hein.
Check it, moi, pareil. Okay. Pas la grosse semaine, là, c'est pas la grande forme, là, pour les comics Marvel.
La Marvel, là, au début de bien. Très très bien. Entre du retard et des séries très moyennes, ça commence vraiment super bien. On va passer à la fin d'une mini-série, c'est la fin d'AVX Consequences. C'est toi Jean-Lô qui va nous résumer l'épisode.
Donc AVX Consequences 5 sur 5, toujours écrit par Kieron Gillen, mais dessiné cette fois-ci par Gabriel Hernandez Walta. Et colorisé, si ça y en a que ça intéresse, par Jim Charalampiris. Voilà. Alors que dire, c'est la fin de cette mini-série transition, pourrait-on dire, entre AVX et A+X, ou enfin voilà, toutes les nouvelles séries de l'univers Marvel Now. Bonne conclusion, je dirais, on va pas trop raconter, mais bon bah voilà.
Ah bah on peut, hein, parce que de toute façon c'est déjà spoilé par les débuts du X-Men.
Oui,
et,
bon enfin voilà.
Et l'annonce du nouveau Uncanny X-Men, donc franchement,
Scott,
on spoil rien, c'est déjà spoilé.
Scott donc bah, se pose toujours en figure de, entre guillemets, pas martyr, mais...
Ah si, martyr. Hein.
Ouais, mais pas vraiment martyr, puisque bon, il lui arrive rien de spécial, mais on va dire de nouveau leader pro-mutant radical.
Et c'est le Che Guevara.
Et non, tu peux pas dire ça. Bon bref, et donc bah du coup, il prend une décision frontale pour sortir de la situation, enfin de la prison. Et donc il va faire appel à un vieil ennemi. Et voilà, et donc il va se retrouver libre et en bonne compagnie, si on peut dire.
Libre comme l'air.
Je veux pas trop spoiler parce que c'est quand même pour moi le numéro le plus intéressant de toute la mini-série. Et au niveau des dessins, bah c'est regrettable malheureusement qu'ils aient changé de dessinateur, même si l'ancien dessinateur était
pas.
Ah
bah ils ont changé à chaque épisode.
Ah
oui.
Ouais.
Oui, ils ont
putain, mais j'ai pas fait attention parce que moi je les ai lus comme ça, mais ça restait assez ressemblant, tu vois. Pour moi. Enfin, en même temps, avec une sortie par semaine, ouais, c'est assez logique. Mais là, ça dénote vraiment des autres épisodes, je trouve, et trop. Parce que c'est vraiment pas à la hauteur. On dirait un gamin de 15 ans qui serait très doué, hein. C'est pas le problème, mais c'est pas à la hauteur des autres numéros, je trouve.
Bah, je suis pas fan de moi des visages, hein, personnellement.
Moi, je suis pas fan du tout. Hein.
Non, mais on dirait que ça a été dessiné au crayon de couleur.
Non, mais en fait,
voilà,
c'est la colorisation pastel qui donne ça, mais qui va bien avec le style de dessin, mais je pense que ça ne va pas à ce type de récit, tout simplement.
On dirait John Romita Jr. qui dessine. Pardon, excusez-moi.
Oh non, peut-être pas quand même. c'est quand même moins carré que Romita.
Non, enfin bon, bref.
Moi, ça me faisait penser, point de vue colorisation, etc., ça me faisait penser un petit peu à ce qu'on a sur Flash, là, parfois.
Oui, ouais, c'est vrai, un petit peu. Mais enfin, je trouve que voilà, ça conclut mal la série, surtout que voilà, le numéro est assez bon au niveau du scénario, et je trouve que le dessin est pas à la hauteur.
Bon, comme tu y vas, toi. Oh là là.
Ouais. Mais disons que les 10 dernières pages sont les plus intéressantes. Enfin, c'est les seules intéressantes de toute la mini.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà. Et je le dis, je l'ai répété ces 4 dernières semaines, ce truc aurait pu être dû être raconté dans un one-shot de 50 pages. On se serait moins fait chier. Et voilà.
Ils auraient gagné moins d'argent.
Non,
ouais.
Ouais, c'est chaud.
Alors, en plus, j'ai quand même eu des par moments l'impression de relire du Uncanny X-Men. Parce que Gillen a passé plus de temps à conclure des intrigues qu'il avait laissées en plan sur Uncanny X-Men que sur vraiment les suites d'AVX. Hein.
Ah ouais. Non, bon, pour moi, ça reste. C'est vrai que c'est meilleur que ce qu'on avait eu dans le 4. Il y a encore des problèmes de caractérisation à mon goût. N'est-ce pas Danger? Hein, pour ceux qui le liront, vous comprenez.
Oui, mais le problème, c'est que Danger, on s'en fout. Quoi.
Oui, non, mais enfin, je suis désolé, la caractérisation, on apprend quand même 2 pages sur cette connerie. Moi, ça me fait rigoler. Quoi. Non, c'est vraiment ridicule. Quoi.
Pour en revenir à ce que Sam disait, je trouve qu'ils auraient pas dû le faire en un one-shot, parce qu'il faut quand même le temps que, dans la tête de Scott, il prenne sa décision, tu vois, de savoir qu'est-ce qu'il fait.
Il y a longtemps qu'il est dans cet état-là. Hein, Scott,
Non, mais de savoir, est-ce qu'il reste en prison, et dans ce cas-là, il essaie d'être un modèle, entre guillemets.
Si, oui, ça pourrait
et
être
c'est toute une discussion qu'il va avoir avec Logan dans ce numéro, justement. Ou est-ce qu'il essaye de sortir de prison et de se trouver un nouveau rôle dans le monde, dans le Marvel No, quoi, dans l'univers Marvel No. Et je trouve que justement, le fait que ce soit en plusieurs numéros, mais à une cadence, une fréquence assez rapprochée de là en 5 semaines qui se suivent, je trouve que c'était le bon temps, quoi. Le bon laps
Moi,
de temps.
Ce qui me gêne vraiment dans cette série, dans cette mini, en fait, c'est qu'à part l'épisode 2, on s'est vraiment trop intéressé à uniquement Cyclope. Et AVX Consequences, c'était censé être les conséquences de tout AVX, et donc pour tout le monde. Et là, c'est vraiment que pour Scott, quoi. Et c'est ça, moi, franchement, ça me gêne.
Bah, par exemple, Emma Frost a complètement disparu. On l'a eu dans le 3, pendant 2 pages.
Ouais, qu'elle était en tôle, et puis point.
Ouais, voilà. Mais faut voir que ça, c'est plus une mini-série promotionnelle de ce qui va arriver par la suite, donc dans les pages de...
Ouais, mais à ce moment-là, tu l'appelles pas AVX Consequences, quoi. Pardon. Tu l'appelles pas Consequences. Tu l'appelles autrement, ouais. Mais pas Consequences. Là,
ouais,
on a l'impression qu'on va te donner les répercussions de ce qui s'est passé, et pas du tout, juste
oui,
du
ouais,
point
ouais,
de vue de Scott. C'est ça qui me gêne, en fait.
Enfin,
sorti de là, bon, après, la mini s'est appelée AVX The Fall of Scott Summers ou un truc dans le genre.
Ouais.
Là, moi, j'aurais été moins mécontent, disons. Mais là, il y a vraiment un souci de bah, je vous vends ce qui n'est pas dedans, en fait. Tu l'as lu aussi, Benny?
Ouais, tout à fait. Je rejoins l'avis général, c'est-à-dire que. Cette dernière partie contenait des choses intéressantes, mais voilà quoi, c'est tout. Hein. Ça ne méritait pas une mini-série. Bon, c'était voilà, sans plus. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je... ça fait des heures. Franchement, passons à autre chose quoi.
Voilà, oui. Voilà,
parce que là,
check it pour moi.
Check it et la mini en général, ce serait un pass. Hein.
Oui, bah attends, il y a juste un truc que j'allais dire, c'est-à-dire que ma prévision. De toute façon, on peut le dire.
Écoutez
hein,
le Weekly 17.
On en parlera dans
le Weekly oui. News 17, pardon.
Ouais.
Voilà, s'avère assez juste. Ouais. Quoi.
Bah, moi, ce sera un check-it plus, sachant que par contre, ça m'a vraiment donné envie de me précipiter sur le premier numéro du All New X-Men. Voilà.
Je rappelle que c'est écrit par Bendis, hein, alors attends.
Semaine prochaine.
Voilà.
Ouais.
Donc, on verra ça. On en reparlera.
Allez, on reste dans l'univers mutant et on va passer maintenant à Uncanny X-Force numéro 32, 33, je sais plus.
Le Uncanny X-Force 33, effectivement, ouais. C'est la 9e partie d'un arc en je ne sais pas combien, du coup.
Attraction, parce que ça se conclut dans le prochain.
Ça s'appelle un arc en Attraction, ça.
Ouais.
En Attraction, voilà, fractionné en un certain nombre de parties plus ou moins égales à 10. Donc Final Execution, voilà, ça s'appelait comme ça. Donc au scénario Rick Remender et on a des dessins de Phil Noto. Bah alors en fait, tous les Uncanny X-Force font face à la nouvelle confrérie des mauvais mutants menée par le fils de Logan, donc Deacon, et dont le but est de corrompre le fameux enfant qui doit en fait être la reine. Ouais, mais enfin, il s'appelle pas Genesis, il s'appelle Evan.
Oui, mais Evan. Son nom de code, c'est Genesis.
Donc, qui doit devenir Apocalypse, et essayer de le faire se réincarner, on va dire. Et là, au fait, c'est un épisode, bon, c'est vrai que la situation n'évolue pas tellement. En fait, on s'intéresse surtout au personnage du Nightcrawler de l'ère d'Apocalypse, qui a une vengeance
à exercer,
voilà, sur le Colosse. Enfin, le Blob, hein, on va dire, qui est responsable de la mort de sa femme dans la dimension dans laquelle il vient.
Qui l'a bouffé.
Et Et voilà, qui a mangé un petit peu à la manière de Ultimatum. Il y en avait qui se plaignaient dans Ultimatum
voilà, bah...
que c'était out of character. Bah, comme quoi, le blob aime bien manger les gens, même dans d'autres dimensions. Et bah, en fait, la scène vraiment choquante et majeure de cet épisode, c'est la manière dont Nightcrawler tue le blob.
Ouais, on va pas le dire, mais...
Juste... Non, on va pas le dire, mais c'est juste le truc le plus traumatisant, le plus crade pour tuer un ennemi que j'ai vu depuis bien longtemps, quoi. C'est juste atroce, quoi. C'est... Non mais enfin on va pas dire, mais c'est vraiment atroce. Et voilà,
booster.
Bon bah on termine sur un petit suspense sympa, bien que attendu hein, finalement, ouais. On se doute assez de la direction que ça va prendre. Bon, en tout cas toujours une très bonne lecture, voilà. Donc
c'est
moi
juste
c'est
lent.
Quand même un bail.
C'est juste que c'est très lent, ça n'avance pas des masses, donc c'est vrai que moi je pensais que ça s'arrêtait l'arc le dernier épisode. Donc là, je me suis dit quand même, ça va se terminer là parce que le dernier épisode de Reminder sur la série c'est le mois prochain. Et ben non, en fait, il conclut son arc et il conclut son run là-dessus.
Okay.
Donc ça sera un check-it celui-là, hein, parce que ça reste une bonne série, mais là je trouve qu'il délaye vraiment trop.
Ouais, mais enfin en même temps, il revient vraiment au thème principal de sa série, quoi. Mm. Donc bon, c'est assez logique. Pour moi, c'est quand même un bail, voilà, un petit bail, mais un bail quand même. Mm.
On passe donc maintenant au New Avengers numéro 32, mais toujours toi, Benny.
On retrouve Brian Michael Bendis au scénario, bien entendu, accompagné de Carlos Pacheco pour les dessins. Alors, au fait, là, c'est un arc, encore une fois, qui un petit peu s'intéresse à la magie, donc avec de multiples possessions, etc., du Docteur Strange à tous les étages. Sauf que la surprise, entre guillemets, de ce numéro, c'est qu'il y a quand même une hécatombe, il y a trois morts. Alors, il y a une mort dont on se fiche pas mal puisque c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais après, il y a quand même deux personnages principaux qui disparaissent. Alors, sont-ils vraiment morts? Ça, c'est toute la question, à mon avis.
Je te rappelle qu'on est dans l'univers Marvel. Hein.
Ouais, non, mais en plus, dans tout ce qui est mystique, comme ça, je me dis, bon, on n'est pas à l'abri d'une possible résurrection. Mais l'épisode est plutôt pas mal. J'ai l'impression d'avoir du Bendis un petit peu comme il est sur Powers. Avec une ça part vers une enquête policière autour de bah des Avengers quoi. De toute façon ils sont tout simplement mis en garde à vue, enfin je sais pas comment le dire, mais par Maria Hill du Shield, parce que c'est vraiment le bordel quoi, la situation part totalement en sucette. Donc voilà, plutôt agréablement surpris par cet épisode quoi. Il se passe des choses, j'ai trouvé ça sympa. Donc je lirai la suite de cet arc qui est l'un des derniers, peut-être même le dernier d'ailleurs.
C'est le dernier, ça s'arrête au 34.
Voilà, bah, en tout cas, plus sympa que ce qui se passe dans la série sœur, donc Avengers, quoi. Dans lequel il se passe rien, là, ce mois-ci, hein, clairement. Voilà.
Bah, tu enchaînes donc, sur... Pardon, excuse-moi, je te laisse donner ta note.
un bon check-it, quoi. C'est pas forcément un bail, mais en tout cas un bon check-it. J'encourage quand même à la lecture de cet épisode.
On passe au dernier d'Avengers Academy.
Ouais, Avengers Academy, donc qui conclut sa série quoi. Enfin voilà, c'est le tout dernier Avengers Academy. Donc grosso modo, alors oui, Christos Gage est au scénario, Tom Grummet est au dessin. Donc bah voilà, hein, l'équipe artistique est plutôt sympa. Et c'est la fin, c'est la j'allais dire la consécration, je trouve plus le mot,
l'aboutissement.
La remise des diplômes.
Ah, oui.
Oui, voilà, c'est la fin des études, on va dire, des académiciens. Alors, vont-ils devenir des nouveaux vengeurs? C'est toute la problématique.
Non, ils vont aller se bastonner dans une arène détenue par Arcade dans,
voilà.
dans Avengers voilà. Arena.
Ils vont faire un crossover avec
tous les
Battle
jeunes.
Royale.
Ben ouais, mais c'est ça. Mais comme tous les jeunes chez Marvel, c'est de la chair à canon, quoi. C'est des personnages sacrifiables. Je trouve ça un peu dommage. On sent très bien d'ailleurs que y en a la plupart qui soit on verra pas, ou soit qui vont mourir dans les prochains mois parce que voilà quoi. Ils servent plus à rien. On sait pas trop quoi en faire. Donc c'est un petit peu décevant parce que on sait très bien que y en aura peut-être, allez, un ou deux si on a de la chance, qui deviendront un jour des vrais vengeurs, quoi. Bon, sinon l'histoire est sympa, il se passe toujours pas mal de choses, là il clôture la plupart de ses intrigues, mais voilà, il se passe rien de transcendant quoi dans cet épisode, hein. Faut pas s'attendre à une grosse révélation finale extraordinaire, un gros retournement de situation quoi. Il y a juste des choses très sympathiques. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi la série, il y a un couple hein, qui s'est formé dernièrement entre, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le mec à la tête de crâne rouge là.
Oh bah c'est pas dernièrement,
oui, c'est
Metal et Azmat.
Oui, ouais. Oui, voilà. Donc, j'espère au moins qu'ils vont garder ce couple-là en vie. Mais bon, j'y crois moyen, quoi. J'y crois moyen. Je rejoins l'avis de Sam là-dessus. Je pense qu'on va avoir pas mal de pertes dans cette équipe à partir de ce futur titre qui s'appelle, je ne sais plus.
Avengers Arena.
Avengers Arena, oh putain. Super. Donc, voilà, bon, bah, alors, un check-it, quoi, parce que c'est toujours sympa. Christos Gage est à l'aise. Il aime bien ses personnages, mais malheureusement, on lui laisse pas la chance, à mon avis, de produire quelque chose dans la durée, quoi. Puisque, à mon avis, voilà, ça va disparaître très vite, tout ça.
Allez, on termine la partie Marvel avec la sortie du deuxième numéro de Daredevil End of Days, Sam.
Oui, écrit par Brian Michael Bendis et David Mack, dessiné par Klaus Johnson avec une participation de Bill Sienkiewicz qui fait les finitions et les parties peintes de l'épisode. On continue après la mort officielle de Matt Murdock d'Daredevil, avec l'enquête que mène Ben Urich sur en fait les années où il a disparu. Il cherche à savoir où ce qu'il a fait, où il était, et surtout le sens de son dernier mot, Mappon. Donc il est dans une quête très Citizen Kane, et il commence par aller voir ses ex, les ex de Matt Murdock. Donc il commence par la plus célèbre, à savoir Natasha Romanoff, Black Widow. Ce qui donne une scène très drôle où il essaye de contacter le siège des Vengeurs et il leur dit « Oui, mais Natasha Romanoff, Black Widow, qui faisait partie des Avengers. » Quels Avengers? Les Old Avengers ou les Old New Avengers? Ou les Old Old Avengers? » Donc on voit Bendis en fait qui se moque lui-même
de ce qu'il a apporté lui hein, en plus.
Voilà,
hein.
Oui.
Faut pas déconner, c'est avec, quand même lui un multiple équipe.
Voilà. Et en plus, on a une espèce la double page première où on voit vraiment la starification de tous les super-héros, puisque c'est vraiment super-héros partout, tout le temps, sur toutes les affiches publicitaires, sur Times Square. Enfin, c'est complètement dingue.
C'est des comédies musicales. On a un musical de Hulk.
Voilà.
C'est
Il y a plein d'idées sur cet avenir avec notamment le nouveau président des États-Unis qui est le Faucon, mais qui est un conservateur. J'adore. Et on voit Bendis quand même l'ancien journaliste qui connaît quand même le langage des conservateurs, notamment sur les dénonciations des complots gauchistes pour détruire la nation. Enfin, c'est complètement dingue. Donc en fait, on voit l'enquête de Ben Urich et notamment, il va voir les ex de Matt, comme je l'ai dit. Donc après Natasha Romanoff, il apprend ce qui est arrivé à la jeune femme, grâce à Nick Fury, qui atteint le siècle bien tranquillement. Ensuite, il va voir Mila, qui n'est plus dingue.
Il se porte bien.
Et enfin,
surtout,
il finit.
Attends, Mila.
Mila, oui, c'est Mila.
Mila, elle n'était pas aveugle.
Moi aussi, je me suis posé la question et je me suis dit, en fait, c'est l'avenir. Donc elle a dû se faire guérir ou soigner. Par des moyens de l'époque, en fait. Puisqu'on est dans l'avenir, on est quelque chose comme 20 ans dans l'avenir, donc...
Ça n'a pas l'air, hein. Ça n'a pas l'air. Enfin,
ouais, je crois que c'est volontaire.
C'est une société crasse, mais en même temps, tu regardes la nôtre...
Ouais. Et enfin, il finit sur Elektra. Donc, il y a plein d'idées, ça avance pas des masses, hein, faut quand même le dire, au niveau histoire, mais...
C'est un polar, en même temps, c'est normal que ça avance pas, quoi. Enfin, ça avance pas, que ça avance lentement, disons. Parce que ça avance quand même.
Mais j'ai vraiment l'impression que, en fait, Matt Murdock a passé son temps à faire des gosses, hein, surtout. c'est le truc, mais voilà. C'est toujours bien, je trouve. C'est bien écrit. Voilà. Bendis est à l'aise là sur ce qu'il fait là.
Ouais, mais enfin, moi j'ai l'impression de relire toujours un peu la même histoire aussi. Bendis, j'ai l'impression qu'il a fait 50 fois une histoire où Ben Urich mène l'enquête et où là, ça faisait aussi penser à du Alias. Mm-hmm. Ça me faisait penser à un ancien épisode d'Alias où Jessica Jones recherche justement une nana et puis elle n'arrive pas à la trouver, une ancienne héroïne.
Oui, mais enfin, c'est la base du polar quand même. Hein,
Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à la fin du premier épisode, on voyait sur la dernière page Daredevil en haut des toits qui surveillait Ben Urich.
Là, on n'a rien là-dessus. Hein.
Donc là, cette histoire n'avance pas, mais en tout cas, Daredevil. En tout cas, le costume, lui, n'est pas mort. Est-ce que c'est bien maintenant Murdock dessous? Ça.
Justement, le premier épisode était quand même vachement ambitieux, et là, je trouve que...
Ouais.
Disons que c'est ambitieux, dans la représentation de l'avenir, je trouve. C'est bien fait.
Jean-Loup, tu allais dire?
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Bunny, c'est que le premier numéro, moi, j'ai vraiment dévoré, et celui-ci, je trouve qu'il retombe un peu comme un soufflet froid. C'est-à-dire que, bon, oui, effectivement, c'est une progression difficile d'un enquêteur... Donc je rejoins ce que vous aviez dit sur l'ancien podcast, un peu à la Citizen Kane, où on voit qu'il pédale un peu pour trouver la réponse à ses questions, mais surtout faire son article. Mais je trouve que ouais, il est moins palpitant que le premier numéro. Après, cela dit, par rapport à ce que Sam a dit, il a dit que la plus célèbre c'était la Veuve Noire. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que, enfin, pour moi, la copine la plus célèbre de Daredevil, c'est quand même Elektra. Et justement, comme c'est elle qu'on voit à la fin, et surtout elle qu'on va sûrement voir dans le prochain numéro, étant donné la couverture du 3, qui est assez engageante.
Vous remarquez d'ailleurs sur cette cover, on
Il
voit
n'y en a
deux
pas de
flics,
culotte.
c'est Bendis, et à côté c'est sûrement David Mack. Regardez
Ah
le mec à gauche, le
ouais,
chauve,
non,
c'est Bendis.
effectivement. Ouais, effectivement. Sympa. Et bon, enfin, pour dire, voilà, pour moi, c'est Elektra la plus célèbre, et j'ai hâte qu'on en sache plus là-dessus, quoi. Donc, pour moi, ce numéro, c'est plus un numéro de transition. Les dessins sont toujours aussi sympas, un petit peu mélange transgenre entre un peu du Mac, du Miller parfois, enfin tout, voilà, tous les artistes
Oui, c'est.
qui ont pu travailler sur Daredevil. Donc ça, je trouve, c'est un assez bel hommage. Après, voilà, c'est un peu dommage. Et à mon avis, moi, peut-être je spoil, et j'espère que je dis pas une grosse connerie, mais à mon avis, le mot qu'a prononcé Matt Murdock, Mappone, en fait, à mon avis, il voulait dire mascarpone, parce qu'il avait envie d'un mascarpone avant de mourir, et il a pas eu le temps, il a juste dit Mappone, et voilà, quoi. Et c'est toute l'histoire. C'est comme le Rosebud
Non, il a
de
dit t'es
Citizen
bonne, il
Kane,
a dit
quoi.
t'es bonne, mais c'est... il a dit t'es bonne.
Voilà, c'est sur cette blague honteuse que je tire ma révérence. Donc pour un check-it pour moi.
Pour moi, ça sera un bail.
Pour moi, c'est un bail aussi, ouais. Ça continue très très bien et très bonne mini-série qu'on aura attendu 5 ans, mais du coup, bonne quand même. Benny?
Bon, bail aussi, ouais.
Ah ouais, d'accord.
Ok.
Il y a que moi qui trouve que c'est un check-it. Mais c'est un check-it juste parce qu'il est un peu moins bon que le premier, hein, mais sinon, ça sera un bail. Voilà.
Allez, on va passer à la partie DC maintenant avec la sortie du Green Lantern numéro 14, suite de Rise of the Third Army, deuxième partie dans Green Lantern. Toujours écrit par Geoff Jones avec Doug Mankey au dessin et Christian Lamy, Mark Kirwin, Keith Champagne et Tom Nguyen à l'ancrage. Donc on va avoir ce qu'on nous avait teasé à la fin du mois dernier, l'affrontement, si on peut dire ça comme ça, entre le nouveau Green Lantern, Simon Baz, et la Justice League, qui vient demander quelques comptes et lui dire t'es un foutu terroriste, toi, on va t'attraper.
Oui, alors moi j'ai eu 5 secondes d'espoir au début de l'épisode, puisque je me suis dit, ça y est, il évite en fait le combat au début, que Simon Baz, qui est très raisonnable, qui essaye de coopérer avec la Justice League. Je me suis dit, génial, on va éviter au poncif. Ben non.
Ah oh bah on n'a pas vraiment de combat.
Ouais. Il est quand même
On a...
considéré comme un ennemi, hein.
Oui, mais on n'a pas vraiment de combat.
Voilà.
Je sais pas, moi franchement qui suis pourtant relativement dur avec Geoff Jones ces derniers mois, bah, je me suis quand même laissé facilement porter par cet épisode qui est assez bien construit. Il évite le combat basique. Alors,
Oui,
il y
il
a quand
évite le
même un
contre-revers aussi, hein.
affrontement, il y a un affrontement, mais il évite le combat basique. Le crossover avance très
Pas.
légèrement, ça c'est quand même le gros reproche. Mais on a quelques petites avancées.
Bon,
Donc,
pour moi, ça reste qu'un tout petit check-it parce que de crossover, en fait, il n'y a pas vraiment d'avancée réelle. C'est toujours la troisième armée qui continue à convertir. Waouh, qu'est-ce que c'est passionnant. On aura le retour des nains de Lord of the Rings, hein,
ah
enfermés dans.
les premiers, les mêmes gens que la race des gardiens, tout simplement.
Voilà,
Coincé
oui,
dans les
mais
mines
bon.
de la Moria,
C'est pas
aux mines de
passionnant,
l'espace.
hein. Putain, mais bon. Moi j'ai envie de hurler, mais tu te bouges le cul un peu, putain.
Non, moi j'ai bien aimé la partie sur Baz quand il est justement avec le Justice League, c'est à peu près la partie du milieu. Je trouve que c'est intéressant, c'est bien écrit, c'est assez drôle. Voilà.
D'accord. Donc, bah pour vous,
Bah tout petit check-it.
Jean-Lô?
Un bail.
Un bail, bah pour moi aussi un bail, tu vois. Moi qui suis pourtant relativement dur avec lui, je trouve que c'est assez engageant. On continue avec la sortie du Detective Comics numéro 14, Benny.
Ouais, alors Detective Comics numéro 14 par John Layman, donc Tony Chu, et au dessin Jason Fabok, qui est vraiment très très bon, je trouve graphiquement c'est vraiment pas mal. L'histoire, c'est pas tellement en fait au sujet de l'intrigue de la dernière fois, c'est vite vite expédié cette histoire avec le pingouin. On reste quand même dessus, hein. Il y aura des retombées, mais là au fait c'est surtout Batman face à Poison Ivy. Poison Ivy qui est peut-être pas au fait la véritable méchante de l'histoire. Bon, je trouvais ça un peu longué au fait, la confrontation entre les deux, entre Batman et Poison Ivy. Je voyais pas du tout ce que John Layman voulait faire avec ça et où est-ce qu'il voulait aller. Et le final est assez intrigant, En rapport avec le backup qu'on a, donc qui est aussi de John Lehman et de Andy Clark au dessin,
qui est toujours aussi bon.
Un backup qui nous montre un petit peu justement, en fait une nouvelle, enfin pas vraiment nouvelle, en fait c'est un truc assez ancien d'ailleurs même, mais Poison Ivy au fait c'est mis en relation avec un autre ennemi de Batman. Qu'on retrouve donc à la fin de cet épisode et bah c'est assez intéressant, j'ai envie de voir la suite où tout ça va nous mener. Donc il y a plusieurs intrigues au fait qui s'entremêlent dans le Detective Comics de John Lehman et bah voilà, tant mieux quoi, c'est bien écrit, c'est sympa franchement, autant graphiquement que scénaristiquement parlant, voilà, bonne petite lecture du bon Batman quoi. Donc pour moi c'est un, alors c'est un petit bail, c'est pas non plus la lecture ultime, mais c'est pas mal.
Okay. Ben personnellement, ça sera un bail, parce que j'ai bien aimé. Je trouvais cet épisode meilleur que le précédent, parce que déjà, en fait, c'est qu'on vire le pingouin, qui me gonfle comme personnage. Alors que Poison Ivy a beaucoup plus de potentiel, je trouve. Il réinstalle la tension, la grosse tension sexuelle qu'il y a avec Batman, donc ça c'est pas mal non plus. Et en fait, moi, j'étais un peu déçu à la première lecture, et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, en fait, c'est John Lehman qui pose les bases de son run. C'est vraiment uniquement les bases. Et il faudra voir en fait
mais
comment il développera ensuite.
L'intrigue avec le pingouin n'est pas terminée pour autant. Hein.
Ouais, mais elle n'est pas terrible, justement. Donc voilà. Elle ne me passionne pas, donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'étais content qu'il la vire.
Donc ta note ?
Un bail.
Bye. J'ai juste une petite question, ça ne pose pas trop de problème, que Poison Ivy repasse du côté, on va dire, un peu plus obscur, sachant qu'elle était...
Non, parce que dans Birds of Prey, en fait, elle avait empoisonné ses collègues pour les changer en terroristes écologiques. Donc déjà, elle était limite. Hein. Et en fait, Batman, justement... Il y a toute une case qui explique comment elle l'a aidé dans le passé et comment en fait elle essaye de faire ce qui est bien, mais elle s'y prend mal. C'est tout le problème. Donc vraiment, John Lehman fait attention aux détails, fait attention à la continuité du personnage telle qu'elle a été apparue dans les autres titres.
Ok, allez, on continue sur l'univers de Batman avec la sortie du Batwing 14, puisque Jean-Louis est là, il nous parle donc de Batwing. Qui est, je crois, le dernier à lire cette série au monde.
Rappelez-vous, c'est vrai que depuis... Rappelez-vous que depuis le début, je soutiens fortement Batwing. Donc là, Batwing 14, toujours Jude Winnick au scénario, Marcus Stowe au dessin et à l'ancrage, c'est Ryan Wynn. Oui, comme je disais, c'est vrai que j'aime beaucoup depuis le début Batwing. Et ben là, pour une fois, c'est vrai que depuis quelques numéros, je trouve que... depuis la fin du premier arc, en fait, je trouve que ça baisse vraiment de régime. Ben, c'est toujours un peu Tintin au Congo, hein, c'est Batman en Afrique. C'est très, très, très raciste ce que je viens de dire, mais c'est un peu vrai. Mais non, mais voilà, quoi, c'est une transposition. Alors, au début, c'est vrai que j'aimais bien le côté, voilà, on change vraiment de décor. Il y a un côté social, tout ça, mais je trouve que...
Ça, c'est ton désir de vacances et t'avais envie d'aller prendre des vacances en Afrique,
voilà.
Et tout.
Mais là, je trouve que c'est un peu répétitif. Pour faire très vite, en fait, le seul intérêt de ce numéro, c'est que donc la menace contre laquelle Batwing lutte avec le concours de Dawn, qui est une super-héroïne, c'est que la menace n'est peut-être pas humaine. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive un petit peu dans le côté conte fantastique de africain. Ça serait intéressant, ça pourrait donner un intérêt, à mon avis, à la série, quoi. Parce que sinon, voilà, c'est vraiment pas un arc très intéressant. Et le méchant déguisé en Sergeant Pepper, honnêtement, voilà, quoi. Non, ce qui serait bien, c'est que ça devienne un peu fantastique et avec des contes africains, là, ça pourrait être intéressant. Donc ça sera vraiment qu'un check-it.
On passe maintenant au Earth 2 numéro 6, scénarisé par James Robinson, au dessin Nicolas Scott et ancré par Trevor Scott. Donc c'est la fin du premier arc sur Solomon Grundy, ce personnage qui est du Grey, hein, l'équivalent du Rod sur cette Terre 2, avec ce Green Lantern qui vient du Green apparemment, enfin c'est pas trop. Mais une espèce de transposition de ce que l'on voit dans Animal Man et Swamp Thing mis sur Terre 2. Je ne sais pas si c'était l'idée de base de James Robinson dès le départ, ou est-ce qu'il s'est servi de ce qui a été fait dans Animal Man et Swamp Thing dès maintenant.
Ou est-ce qu'on l'a encore obligé à faire un truc qu'il ne voulait pas faire pour lier les événements dans l'univers DC.
En tout cas, ça fonctionne très bien. Moi, je trouve que franchement, ça fonctionne très bien. On a des héros, on a un Flash qui est complètement naïf, très innocent, du côté « Ah ouais, on va être des super-héros, c'est trop cool, on va tous être potes, on va échanger nos slips. »
Non.
Et en fait, pas vraiment. voilà, on a vraiment le monde qui pose ses bases avec ce premier arc. Et c'est une série que j'aime toujours autant et j'ai vraiment hâte chaque mois de lire la suite. Parce que,
ah bah moi pas, là.
Parce que franchement, voilà, j'ai envie de voir où ça va, quoi.
Moi aussi, promet... moi j'aime vraiment bien. J'ai suivi les conseils, j'ai commencé à lire et c'est vraiment très bon.
Ouais, mais alors là, par contre, là, je suis vraiment mitigé sur cette fin d'arc. Je trouve qu'elle manque de, panache. Ça se termine un peu comme bon et maintenant. Et bah oui, bah justement, bon et maintenant quoi. Je sais pas. Là, franchement, j'ai pas hâte de lire la suite puisque bah
c'est vrai que
pose rien pour la suite.
En fait, pour la suite, il nous pose avec le titre simplement ce qui est arrivé au Mister Terrifique, qui on le savait était passé dans cette Terre 2 et point quoi.
Ouais,
c'est vrai qu'il laisse pas sur un cliffhanger qui donne envie. Hein. C'est un peu le problème.
On nous promet une équipe depuis le départ et on voit que on voit ce qui se passe. C'est vrai que le cliffhanger est ça et là quid de cette équipe, c'est plus ça qu'il faut voir comme cliffhanger. On est dans les scénarios à la James Robinson,
mais personnellement je te rejoins, ça reste un bail hein, comme titre,
où le titre où les cliffhangers sont un petit peu plus complexes qu'une grosse page qui fait mouche quoi. Qu'un Joker qui se coupe le visage par exemple, même si ce cliffhanger là était très bon, c'était juste le premier exemple qui venait en tête quoi.
C'est juste le reste de la série qui était à chier.
On va pas revenir de suite. Donc pour moi, c'est un gros bail cette série. J'aime vraiment beaucoup. Et si vous n'avez pas pris le train en marche, attendez le TPB parce que ça vaut vraiment le coup.
Bah là, pour moi, pour une fois, c'est juste un check-it quoi. Franchement, j'ai pas été transporté plus que ça par cet épisode. Bon, enfin bon.
Allez, on passe au dernier titre d'essai de cette semaine. Ce sont les Animal Man et Something numéro 14 qui sont donc tous les deux partie intégrante du crossover Rotworld.
Voilà, Rotworld, donc c'est toujours écrit par Jeff Lemire et Scott Snyder, et cette fois-ci c'est dessiné pour Animal Man par Steve Pugh et Timothy Green 2, et pour Swamp Thing, le merveilleux et incroyable Yannick Paquette, qui nous a mis plein les yeux ce mois-ci.
Swamp Thing qui fait 50 km de haut, là.
Oui, c'est expliqué.
Oui, mais oui, mais moi j'avais hâte de savoir, parce qu'on avait vu ça dans le annual de la semaine dernière, et j'avais hâte de savoir pourquoi il grandissait comme ça, même si l'explication était proche de ce à quoi je m'attendais.
Voilà.
Mais je trouve que c'est juste la méga classe d'avoir un Swamp Thing qui fait 50 mètres de haut, quoi. C'est génial.
Parce qu'en fait, il est dans son lieu de pouvoir à lui, donc il fait un peu ce qu'il veut.
C'est Godzilla Swamp Thing.
Voilà, donc en fait, on a les forces du Rod qui attaquent les lieux de pouvoir du Red et du Green, donc où sont revenus Animal Man et Swamp Thing, et chacun décide d'aller attaquer les agents du ROT, hein. Donc ils quittent leur lieu de pouvoir, et chacun, c'est un peu plus complexe, mais j'accélère. Personnellement, j'ai préféré ces épisodes-là au précédent, parce que j'avais vraiment l'impression que le numéro 13, je relisais deux fois la même chose, et là, j'ai vraiment eu l'impression de lire certains crossovers, mais chacun à sa manière.
Ouais.
T'es pas convaincu, toi, Benny?
Bah écoute, moi, alors, autant Animal Man, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses.
Je l'ai préféré aussi, moi, Swamp Thing.
Je préfère Swamp Thing, hein.
Oui, bah alors ça m'étonne pas. Donc Animal Man, il se passe des choses, c'est ample, c'est long à lire. Enfin voilà,
et
au moins ça avance.
Un cliffhanger de ouf aussi.
Il y a un cliffhanger, il y a des retournements de situation, il y a des surprises. Il y a même plusieurs cliffhangers, on va dire d'ailleurs. Il y a des références aux autres séries d'essais. Il y a plus de personnages d'ailleurs sur lesquels le scénariste travaille. Etc. Sur Swamp Thing, c'est toujours la même formule.
Il a quand même un avantage, Jeff Lemire, par rapport à Scott Snyder, c'est que les personnages qu'il utilisait, il les utilise déjà dans Justice League Dark, donc il les connaît. Enfin, en tout cas pour certains. Ouais. Donc il connaît déjà la caractérisation de ses personnages, il y est habitué, donc c'est un peu plus facile pour lui d'utiliser des personnages différents.
Ouais, il utilise aussi d'autres personnages, et puis il y a des références aussi à tout l'univers d'essai qui sont bien pensées. Maintenant, Swamp Thing, c'est un petit peu le même combat tous les mois, quoi. C'est toujours un truc psychédélique où sur des pages et des pages, c'est un petit peu le combat entre le Green et le Rot. Mais ça fait des mois, j'ai l'impression de lire la même chose et ça n'avance pas beaucoup.
On reste dans la caractérisation classique de Swamp Thing et Animal Man. Animal Man a une famille et là, dans ce crossover, il est vraiment bien entouré. Swamp Thing est tout seul depuis le départ et il continue d'être seul. Je veux dire, son seul pote qui l'accompagne, c'est Deadman. Franchement, en termes de compagnie, on a vu mieux, quoi.
Mais moi, j'ai l'impression de relire toujours le même épisode. C'est ça le problème. C'est la même structure à chaque fois narrative.
Par contre, le cliffhanger de Swamp Thing est aussi assez énorme, je trouve.
Et il y a Animal Man, si on fait attention.
Oui, bien sûr.
Ouais, mais enfin, il est bien plus prévisible. Il est bien plus prévisible. Et
Alors, franchement, si t'avais pu prévoir que ce personnage-là allait sortir des eaux, franchement, balèze.
Ouais.
Là, franchement, balèze.
En même temps, si c'est un animal, c'est normal qu'il sorte des eaux.
Qu'il allait sortir des eaux, pas forcément, mais en tout cas, qu'on
allait
le revoir.
Non, moi, au contraire, je suis content de le revoir parce que je me demandais quand est-ce qu'il réapparaîtrait. Donc, pour moi, ça reste un bail.
Ouais.
Les deux séries sont un bail pour moi.
Oui, pour idem.
Ouais, moi, je suis bien plus mitigé sur Swamp Thing. Scott Snyder nous refait toujours le même truc.
Mais moi,
tous
ça me plaît.
Mois,
et voilà, et c'est pour ça que je préfère Swamp Thing à Animal Man. Animal Man est très bon, mais je préfère. Voilà, ma préférence va à Swamp Thing.
Moi, ma préférence va à Animal Man, mais pour moi, les deux sont des bails et à lire tous les deux ensemble. Voilà, ça conclut notre partie d'essai, mais ce n'est pas réellement fini puisque Kinget, qui n'a pas pu être là pour l'enregistrement, nous a préparé un petit topo de ses reviews et qu'on écoute tout de suite et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission avec de l'indé et le mail d'un auditeur.
Bonsoir à toutes et tous. Alors cette semaine, je ne vais pas pouvoir être là pour le weekly, mais comme j'ai lu pas mal de comics d'essai, je me suis dit je vais vous faire un petit bilan de mes lectures. Et je vais commencer par vous parler de Action Comics numéro 14, donc qui est scénarisé par Grant Morrison et dessiné par Rax Morales. Donc c'est l'arrivée de la Multitude, cette fameuse entité extraterrestre qui avait soi-disant failli détruire Krypton et que le père de Superman avait réussi à vaincre. Ça faisait plusieurs numéros qu'on nous teasait leur arrivée. Et donc là, en fait, on voit un combat de Superman contre la Multitude sur Mars, puisque sur Mars on trouve une équipe de scientifiques qui font des expériences là-bas, qui se retrouvent face à face avec les Metaleks qu'on avait vus précédemment, et à cette Multitude. Donc il s'ensuit un combat assez impressionnant, surtout quand on voit en fait le look de la Multitude, qui est assez inattendu. On en apprend également aussi pas mal sur l'identité du petit personnage qu'on voit depuis très longtemps. On avait déjà eu son nom précédemment, et là on a la confirmation de qui il était. Et donc on voit qu'il en veut énormément à Clark, et que ça a un lien aussi peut-être avec la mort des parents de Clark. Donc quelque chose d'assez intéressant qui, j'espère, sera traité plus tard. Par la suite, on a un petit backup qui, lui, est scénarisé par Sholly Fish et qui est dessiné par Chris Prouse, qui, lui, est assez anecdotique, mais en même temps plutôt intéressant, puisque on y voit Superman qui va voir des scientifiques qui travaillent dans un observatoire. Et en fait, il a l'habitude de s'y rendre tous les 382 jours pour avoir une vue de Krypton, puisque vu qu'il avait été envoyé de Krypton et qu'il est passé dans un trou noir, en fait, il y a 27 années-lumière avant de voir Krypton. Et donc, en fait, il est capable, en regardant dans un télescope et en analysant grâce à sa super intelligence, de voir en fait des images du vieux Krypton. Et donc voilà, c'est une petite histoire assez courte, mais assez émouvante en fait quand on voit la dernière image. Moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal, donc une série qui est toujours aussi intéressante et mystérieuse, et j'attends la suite avec impatience. Je vais vous parler ensuite de Earth 2, toujours dessiné par Nicolas Scott et avec James Robinson au scénario. Donc c'est un petit peu la fin de ce combat entre les nouvelles merveilles et la fameuse entité du gris, Grundy. Et donc on avait laissé Alan Scott dans le gris, en train de discuter avec cette entité maléfique, et il avait failli succomber en fait cette projection de son ancien petit ami. On voit également un petit peu plus sur la relation entre Khan et le retour du méchant qu'on avait vu dans le numéro 0. Donc c'est plutôt bien écrit. C'est quand même assez facile, j'ai trouvé, la façon dont ils arrivent à résoudre le problème de Grundy. J'ai été un petit peu déçu aussi par la fin, où j'ai trouvé que le personnage d'Alan Scott exagère un petit peu, et voilà, bon, c'est à la fois rigolo, parce que quand on voit la réaction de Hawk Girl par rapport à ça, ça m'a fait rire, mais j'étais un petit peu déçu. Je pensais qu'Alan Scott allait être peut-être un peu plus leader d'équipe en fait, mais bon, ça viendra peut-être plus tard. Donc un bon numéro, un bail, même si la conclusion est peut-être un petit peu expédiée rapidement. Le gros gros bail de la semaine, c'est le Green Lantern numéro 14, avec Geoff Johns au scénario et Doug Mankey au dessin. Un super bon numéro, ça se lit super vite parce qu'on est vraiment pris dans l'action, on apprend énormément de choses. On voit Baz face à la Justice League qui essaye d'en apprendre un peu plus sur le pourquoi du comment il a récupéré un anneau. On en apprend également aussi un peu plus sur les gardiens et sur leur motivation et sur cet autre groupe de gardiens qu'on avait vu dans un précédent numéro de Green Lantern et que les méchants gardiens ont enfermé. On voit aussi également cette fameuse première lanterne assez mystérieuse et très puissante. C'est des choses vraiment hyper intéressantes pour le background de Green Lantern. Et mine de rien, la confrontation entre Baz et la Justice League se passe pas vraiment comme on l'attend. Il y a une splash page assez marrante au moment où Baz touche son anneau. Et j'ai bien aimé la façon dont il arrive un petit peu à se dépatouiller de la Justice League. Franchement, c'était une super lecture. Les dessins de Mankey sont bons, même si bon, bah, ça, quand il dessine la Justice League, ça fait un petit peu bizarre, surtout quand on voit le personnage de Wonder Woman qui a des traits assez masculins en fait. Mais bon, c'est pas spécialement très choquant. Donc un bon gros bail, et là vraiment la sœur d'Army est vraiment bien lancée. Puis bah, je vais terminer avec deux autres lectures d'essai qui font partie d'un crossover Rotworld. Et oui, enfin, j'ai rattrapé mon retard. J'ai lu les Swamp Thing et les Animal Man. Et donc je vais commencer par vous parler d'Animal Man, scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par Steve Pugh pour les parties qui se passent dans Rotworld, et par Timothy Green 2 pour les parties qui se passent dans le passé. Donc on en apprend un petit peu plus aussi sur ce monde, sur le Rotworld. On voit Buddy Baker qui est en train de former une sorte d'équipe, un petit peu l'équipe du Raid, pour pouvoir un peu sauver ce monde, même si ça semble un petit peu compliqué. Le fait que Constantine soit encore vivant dans ce monde est assez sympa, puisque le personnage est toujours aussi drôle. Et le fait que ce soit Jeff Lemire qui l'écrive aussi dans Justice League Dark, ça reste assez cohérent avec le personnage qu'on voyait dans les autres séries. Il y a un petit truc assez rigolo où on voit les armées du Rot qui arrivent, et ils envoient des super-héros qui ont été complètement tumorisés. Et c'est, je sais pas si c'est un message un petit peu, on voit tous les héros qui avaient été dessinés et scénarisés par Rob Liefeld qui se retrouvent sous forme zombiesque, dégoûtante, et qui se font carrément démonter. Donc à mon avis, ça c'est Jeff Lemire qui est un peu un super copain de Scott Snyder, qui se dit tiens voilà, je vais essayer de me moquer un peu de Rob Liefeld et de ses personnages avec ce petit événement. Bon après c'est assez anecdotique, mais c'était assez rigolo. C'est vraiment super dynamique. J'aime bien les parties qui sont dessinées par Steve Pugh. Les parties dans le présent qui sont dessinées par Timothy Green 2 sont bof. J'aime vraiment pas ce dessinateur, mais bon, ça va. L'histoire est bonne, donc c'est pas hyper hyper choquant. Et dans le numéro se termine avec quelque chose d'assez inattendu. Donc le retour de méchant de l'univers DC. Donc voilà, c'est assez badass, c'est un bon événement, ça me plaît vraiment beaucoup. Et donc par la suite, le Swamp Thing, qui lui est toujours scénarisé par Scott Snyder et dessiné par Yannick Paquette. Donc là, beaucoup plus cohérent au niveau graphique. C'est vraiment très beau ce que fait Yannick Paquette. On a aussi donc le Green qui se retrouve face à ces créatures du Rot, dont un Superboy très très défiguré. Et on voit que Swampy est capable de puiser dans l'énergie du Green pour avoir des pouvoirs assez impressionnants. Des choses qu'on avait un petit peu vues dans le annual, donc là c'est expliqué. Et on a en parallèle aussi, on voit ce qui s'est passé avec Abigail, qui était retournée en Europe de l'Est, et qui, à la suite de cet accident d'avion, se retrouve un petit peu en difficulté. Swampy, là dans le Rotworld, se demande si elle est encore en vie. Et donc il décide de partir et d'aller attaquer le Rot définitivement à sa source. Donc ça, pareil, tout comme Animal Man, ça avance bien, c'est vraiment bien écrit, c'est très beau, là, toujours ces compositions de pages hyper impressionnantes. Et puis bon, le Swamp Thing géant, ça c'est quand même assez énorme. Donc voilà, pour ces deux titres, un bon gros bail. Et donc en fait, oui, j'ai décidé de vous parler de ces cinq titres parce qu'ils m'ont tous plu, donc c'est tous des gros bails en fait. Et voilà, j'ai préféré pas vous parler des choses qui m'ont pas trop plu cette semaine. Donc voilà, c'était juste un petit peu de review express. Passez un bon week-end et à la prochaine pour un prochain podcast où je pourrai participer avec l'équipe. Salut!
Merci Kinged, on te retrouve donc mardi pour le Weekly News et nous on va continuer sur les reviews indés de cette semaine. On passe à Shadowman numéro 1, nouvelle sortie de chez Valiant qui donc relance le personnage. Un personnage que... Un des seuls personnages d'ailleurs de Valiant que je connaissais pas très bien. C'est écrit pour ce relaunch par Justin Jordan et Patrick Zircher, qui s'occupent aussi de la partie graphique. Le premier constat, c'est que c'est quand même vraiment très très beau. Ça claque du slip, ça claque du string et ça claque des talons. Voilà, j'ai envie de dire. J'ai pas d'autres vannes, donc...
C'est t'as épuisé ta vanne du podcast.
Ouais, la fatigue. C'est assez glauque. Qui d'autre que moi l'a lu, Jean-Lo, je crois.
Oui, tout à fait. Alors oui, effectivement, il y a eu d'anciennes séries dessus. En 92, apparemment, il y avait une quarantaine de numéros.
Ouais, il y a eu plusieurs relaunchs quand Valiant avait été racheté par Acclaim.
Oui, ils avaient raclé d'ailleurs pour...
Ils avaient eu aussi un jeu vidéo sur Shadowman.
Ouais. Et donc je connais pas du tout ce personnage et du coup, même si là c'est pas vraiment le personnage principal, mais on va dire c'est la suite. Bah écoute, c'est assez sympa. Hein. Moi j'ai bien aimé. Je connais pas du tout et donc le background, mais ça donne envie d'en savoir plus. Quoi.
Ouais, là voilà, on a juste assez pour nous attirer, mais on a encore plein de questions, on comprend pas très bien qui est le personnage. Grosso modo, Shadowman, c'est une espèce d'entité, voilà ce qu'on sait, c'est une espèce d'entité qui s'empare de quelqu'un, apparemment de génération en génération, et qui combat des forces maléfiques, qu'on sait pas trop d'où elles viennent non plus, et voilà. En tout cas, c'est très glauque, il y a de la chair, il y a du monstre bien crade. Le personnage est relativement attachant, le personnage principal.
Ouais.
Alors, ce n'est pas le même personnage qu'à l'époque dans la série. C'est expliqué dans ce numéro 1 pourquoi. Mais en tout cas, enfin, je sais pas, ça fonctionne. Moi, j'ai envie d'aller voir le 2. Pour moi, c'est un bail, cette série, quoi.
Carrément. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, pour les nouveaux comme moi, on en sait autant que le personnage principal, on va dire que le nouveau personnage. Et du coup, on va sûrement avoir des explications dans les prochains numéros qui vont être des rappels pour les anciens lecteurs, pour les fans du personnage, mais pour les nouveaux qui vont vraiment les aider à comprendre le personnage et son univers, quoi. Donc, c'est vraiment sympa, quoi.
Au risque de me tromper, j'ai quand même envie de dire que ce numéro 1-là, là où X-O Manowar était une bête transposition, enfin une bête façon de parler, mais en tout cas était une simple transposition du premier arc, là aussi, et des premières histoires de X-O Manowar de l'époque des années 90, là on a quand même une nouvelle histoire qui parlera aux anciens, mais qui ne sera pas une simple redite. Valiant améliore son concept un petit peu à chaque nouvelle série, et c'est pas si mal que ça, bien au contraire. Donc un bail, allez-y, essayez, quoi, donnez la chance au produit. On continue avec le...
J'aime bien quand tu dis « ça parlera aux anciens », on imagine un vieux barbu en train de lire ça et faire...
On continue avec la sortie du Manhattan Project numéro 7, Sam.
Oui, toujours écrit par Jonathan Hickman et dessiné par Nick Pitara. Donc en fait... quoi ?
Non, rien. Vas-y, continue.
Donc Hickman continue son histoire du projet Manhattan, en fait, qui est une espèce de rassemblement des plus grands scientifiques américains et occidentaux de tous les temps, de l'époque. Pour construire des super armes pour le gouvernement américain. Enfin, jusque là, parce que dans cet épisode, il y a beaucoup de choses qui changent. Hickman fait suite à ce qu'il a fait dans l'épisode 5, c'est-à-dire qu'il a poussé ses scientifiques au bout de la galaxie pour décimer toute une race extraterrestre. Voilà, parce qu'ils voulaient conquérir la Terre et eux, ils n'étaient pas d'accord. C'était plutôt marrant. Donc là, en fait, les responsables...
C'est toujours marrant, une petite extermination.
Voilà, oui, mais bon. Ouais, c'était des méchants aliens, hein, il faut le dire, quand même. Donc là, en fait, ils rencontrent leurs homologues russes, c'est-à-dire que les Russes ont aussi un programme d'armement complètement cinglé, notamment avec un mec qui est dans une combinaison, tout ce qu'il a, c'est un cerveau, dans un bocal, c'est toujours marrant. Et il vient les voir avec une proposition qui est en fait d'allier le projet Manhattan avec le projet russe et de dire fuck au gouvernement américain et au gouvernement russe. Voilà, on prend notre indépendance, on les envoie chier et on conquiert l'espace.
D'accord.
Donc ça t'amuse, ça.
Ah oui, moi ça m'a fait... Vu comment c'est écrit, parce que c'est complètement cinglé, on a des réinterprétations notamment de Yuri Gagarin et Leica, le premier chien dans l'espace, qui finalement n'est pas morte, et qui parle.
Bah, rappelle-toi Cosmo. Hein.
Voilà, oui. C'est le même esprit. Et c'est vraiment excellent. Vraiment, vraiment très très bon. Je vous le conseille. Encore une fois, c'est vraiment le titre le plus barré qu'a écrit Hickman.
Donc un bail.
Oui.
Si vous avez lu les précédents.
Oui, il vaut mieux. Oui. Mais le premier TPB est disponible, hein, donc vous pouvez aller l'acheter.
On continue avec la sortie de Perapanotes, numéro 1, nouvelle mini-série, Jean-Lô.
Mini-série en 5 parties, donc là c'est la première. C'est comme pour tout à l'heure Shadowman, c'est une ancienne série. Par les créateurs du concept original qui sont Todd Dezago et Craig Russo. En résumé, les Perapanotes, c'est un petit peu le BPRD de chez Image. Sauf qu'ils sont complètement loufdingues, quoi. C'est vraiment... Dans l'équipe, il y a un fantôme, il y a un Sasquatch, il y a un critter, je sais même pas comment on dit, il y a une sorte de gremlin, et il y a voilà une psy qui fait de la télépathie, je crois. C'est vraiment complètement barré, et du coup, c'est vrai que quand on connaît pas du tout l'univers comme moi, hein, puisque moi je découvre cet univers, on est vite perdu.
Tu t'es fait avoir avec le fait que tu pensais que c'était une mini-série, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Je pensais que c'était une mini-série. À chaque fois qu'il y a un nouveau numéro 1, j'essaie de les prendre pour me dire, bah tiens, peut-être découvrir un nouveau truc sympa. Et comme Chu, par exemple, tu vois, devenir fan de la série. Et bah du coup, là, j'étais assez perdu. Donc c'est assez marrant. Il y a un côté humour un peu à la Bones, les trucs comme ça. Puis voilà, ce côté parodie de BPRD, sachant que ça a été créé à pratiquement en même temps. Hein, je crois que BPRD,
mais ça vient
2003.
De chez Dark Horse, hein. Ça,
et...
ça vient chez Dark Horse aussi.
Ouais, ouais, c'est passé par Dark Horse et après c'est allé chez Image. Il y a eu plusieurs mini-séries justement avant. Mais du coup, bah, outre le côté comique des situations, et il y a une petite histoire à la fin aussi qui est séparée, quoi, qui est assez marrante. Mais sinon, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à suivre et du coup, je pense que ça parlera vraiment aux fans de la série d'origine. Mais pour les nouveaux, je conseille pas forcément, quoi. Donc ça sera un check-it. Juste un check-it ou un bail vraiment pour les fans de la série, de l'ancienne série.
Ok, on passe à la suite, c'est Colder, présenté par Mr. Ronny Bunny.
Ouais, Colder chez Dark Horse, c'est Paul Tobin qu'on retrouve au scénario et Juan Ferreira qui est au dessin. Bah au fait c'est un truc assez torturé, on le voit dès les premières pages, on commence dans un hôpital psychiatrique, il y a le feu... Donc des gens qui brûlent, des cris de panique, enfin bon voilà, c'est la fête du slip. Et au milieu de tout ça, il y a l'un des malades qui est visité par une espèce de créature, enfin ça ressemble à un être vivant quoi, un humain, mais qui sort d'une porte dimensionnelle, on ne sait quoi, enfin voilà, et qui apparemment l'hôte de pouvoirs particuliers. Et au fait, cette personne est dans un état un petit peu second, un état catatonique, et il est complètement gelé. son corps est comme en gestation, enfin je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Et au fait, il y a une médecin, une nurse qui veille sur lui, voilà, avec laquelle il est en couple, quoi. Il vit au fait chez cette nana et comment dire, bah il va lui arriver une chose assez bizarre à cette femme. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là sans spoiler.
Ouais.
Non mais enfin voilà donc. En tout cas, il se passe un truc à la fin qui.
Arrête de faire ta claire là, allez, accouche.
Bah non, mais je peux pas révéler la fin, mais je veux dire voilà, il se passe un truc à la fin de ce premier épisode qui est assez étonnant et voilà, on va suivre les aventures de ce personnage qui est on va essayer de savoir pourquoi il est devenu comme ça, qui est cette espèce de démon qui lui a conféré des pouvoirs, où ça va nous mener tout ça. Bon, enfin bon, le truc c'est que c'est assez torturé, franchement c'est déstabilisant même. Donc je sais pas trop quoi penser de ça. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça original, mais en même temps c'est pas la lecture la plus joyeuse de la semaine. Bon, en tout cas voilà, c'est sympa mais sans plus, donc je vais dire un check-it quoi, je vais pas aller plus loin pour cette série.
Moi je l'ai pas lu, mais j'avais vu en fait dans, c'est chez Dark Horse hein, c'est ça?
Ouais.
Et j'avais vu dans le truc spécial Halloween qu'ils ont sorti là, le Free Comic Book, il y avait un extrait dedans justement, parce que enfin le passage de l'incendie là dans l'asile psychiatrique, ça me rappelle carrément quelque chose, c'était assez marrant, mais ça me donne bien envie avec ton résumé de commencer la série. Je l'ai pas acheté, mais c'est vrai que je retournerai l'acheter quoi, ça a l'air assez sympa.
Ok, bah on va rester chez Dark Horse avec toi Jean-Lo, puisque tu vas nous parler de 47 Ronins.
Oui, donc 47 Ronins qui pour pas mal de gens était sûrement attendu, parce qu'il y a quand même deux grands noms sur la couverture. Il y a Mike Richardson au scénario et Stan Sakai au dessin, donc c'est pas n'importe qui. 47 Ronin, en fait, ça fait référence à un événement historique important au Japon, et il y a un dicton d'ailleurs qui est rappelé hein, dans ce comic book qui dit que connaître l'histoire des 47 Ronins, c'est connaître le Japon. Ça fait référence à une histoire justement qui se passe au début des années 1700 où un samouraï, enfin un daimyo, comme on appelle ça, si je dis pas de conneries, si je dis bien, un daimyo, en fait va voir son maître et en fait il se prend le chou avec son maître et du coup ça va pas très bien se passer pour lui. Je fais vite fait le pitch, mais c'est vrai que vu que c'est un contexte historique, c'est y a pas vraiment de suspense ou de choses comme ça quoi. C'est faut plus le voir comme une histoire racontée ou comme une anecdote. Après, je pense que ça peut plaire à certains pour ceux qui sont fans du Japon et qui justement aiment bien cette période-là, le Japon féodal avec les derniers temps des samouraïs, on va dire, avant qu'ils deviennent justement des ronin, donc des samouraïs sans maître. Mais c'est pas super passionnant, et les dessins de Stan Sakai, bon, c'est sympa, mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent Usagi Yojimbo, qui sont fans de Usagi Yojimbo, avec tous ces animaux en samouraï, en personnage vraiment d'histoire japonaise, ils risquent d'être un peu déçus, parce que là, c'est que des humains, et... on reconnaît le style de Stan Sakai, mais c'est pas non plus, c'est pas magnifique quoi. C'est pas du grand Stan Sakai comme on peut avoir sur pratiquement toutes les pages de Usagi Yojimbo. Donc, je pense que ça peut trouver son public, mais pour moi, ce sera un check-it quoi. Faut vraiment être fan et ça s'adresse vraiment à une petite partie des lecteurs de comics.
Je précise d'ailleurs que c'est une mini-série en 5.
Oui, excuse-moi.
Au passage. Non, mais c'est que ça non, peut aussi.
Je suis désolé, chef. Je vais me faire seppuku pour la peine.
Non, mais c'est que ça peut aussi donner envie ou pas envie justement à certaines personnes de l'acheter. Savoir qu'il y en a pas beaucoup peut influencer ou non l'achat justement.
Je sais pas si vraiment ça va trouver son public justement en comic book en fascicule quoi. Mais peut-être qu'en TPB ça sera peut-être plus intéressant. Ouais. Faut voir. Parce qu'à mon avis c'est vraiment une histoire qui se lira mieux en TPB quoi.
Allez, on termine les reviews de cette semaine avec la sortie du numéro 1 de Storm Dogs chez Image. C'est une mini en 6, c'est écrit par David Hein et dessiné par Doug Braithwaite. Alors je dois avouer que j'y étais principalement parce que c'était Doug Braithwaite. Je ne savais même pas de quoi ça parlait, honnêtement, j'ai vraiment pris juste pour Doug Braithwaite. Et pour résumer le plus simplement du monde, c'est un thriller science-fiction. C'est une équipe de l'Union qui est une espèce d'alliance de plusieurs planètes, principalement de la Terre, hein, se débarque sur une planète assez reculée, au fin fond de la galaxie, une colonie minière, le truc jusque-là très classique, où il y a eu une série de meurtres, et vont devoir enquêter. C'est la crème des enquêteurs, et ils vont essayer d'éclaircir ces meurtres sur une planète totalement inhospitalière, où les règles, un petit peu ce qui fait penser à la Prime Directive de Star Trek, empêchent d'utiliser des technologies trop avancées dans des civilisations assez reculées, pour éviter justement que ça crée des problèmes. Donc ils sont coupés de tout lien avec la Terre, et ils vont devoir élucider tout ça avec des locaux qui ont l'air un petit peu bizarres, un petit peu freinant des cas de fer pour justement les aider dans leur enquête. Et puis des pluies acides qui sont justement tout l'intérêt de cette histoire et ce pourquoi on appelle les gens les Storm Dogs. Voilà. Ouais. Tu l'as lu aussi, hein, toi, Jean-Lo ?
Ouais, et je veux dire, c'est mon coup de cœur de la semaine, même si c'est pas un grand coup de cœur, mais au vu de tout ce que j'ai pu lire, vu que j'ai dit que des check-it, et là c'est pour moi vraiment le seul buy de la semaine. Si je voulais faire un pitch amusant, ça serait un petit peu, comme tu l'as dit, le côté Star Trek, qui irait enquêter sur une planète un peu à la Avatar, mais dans un univers à la Firefly, et où ça tournerait à la Ghost of Mars, tu vois. C'est vraiment enfin, à toutes Ghost les références.
Ghost of Mars, c'est pas une bonne référence par contre.
Ouais, oh j'aime bien, moi j'aime
bien. C'est le plus mauvais des John Carpenter, je trouve, mais bon.
Et non, parce qu'il faut le prendre comme un vrai film kitsch assumé, quoi. Mais voilà, c'est pour dire, voilà, c'est vraiment tout tourne mal, tout ce qui peut tourner mal tourne mal, et c'est ce qui va se passer là-bas, quoi. Et je trouve ça assez sympa. Et du coup, c'est tous ces petits bouts d'univers mélangés qui donnent un truc vraiment sympa. Et du coup, moi j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, quoi.
Moi aussi, j'ai une très très bonne lecture, un Doug Braithwaite qui est magnifique.
Oh, c'est génial, c'est super.
C'est
bon.
D'une beauté à couper le souffle. On a des paysages, des personnages qui sont sublimes. Si vous avez envie d'un bon thriller science-fiction, Foncez dessus, c'est une mini-série en 6 qui nous est présentée comme une saison 1, donc ça veut dire si ça marche, il y aura une suite, si ça marche pas, allez vous faire foutre. Mais voilà, au moins on aura vraisemblablement une histoire complète, et puis bah, si ça marche, on aura peut-être d'autres aventures de cette équipe-là, peut-être d'autres équipes, hein, on verra ce qui va nous être présenté. Moi j'ai vraiment bien aimé aussi, comme toi, hein, cette lecture, peut-être pas mon coup de cœur de la semaine, mais en tout cas pas loin. Donc non, foncez dessus, achetez-le et donnez sa chance au produit, quoi.
Et j'espère vraiment que ça va sortir en France et que ça sera dans une belle édition, belle reliure, parce que franchement ça vaut vraiment le coup, quoi. Je sais pas qui l'éditera, mais
oh, je pense que ce sera Delcourt. Enfin, je pense, parce que ouais, c'est vrai que souvent les produits Image atterrissent chez Delcourt, mais on n'a jamais de certitude, hein. Si quelqu'un d'autre fait une meilleure offre, ça sortira ailleurs. On a bien vu ce qui s'est passé avec Saga, par exemple.
Mais franchement, ouais, non, ça vaut vraiment le coup, quoi. Achetez-le et c'est vraiment de la bonne cam.
Allez, on va terminer avec le mail d'un auditeur qui s'appelle Eric. Son sujet, c'est « Mon banquier ne vous dit pas merci ». Tout de suite, des critiques, tout de suite. Voilà, il nous dit « Salut Steve, à toi et à toute l'équipe, particulièrement à Mr. One Ebony et à l'inénarrable Sam, qui sont un peu tes Spock et McCoy. » Donc déjà, il ouvre avec une référence très Star Trek. Je dis, c'est quelqu'un de bien.
Qui est Spock et qui est McCoy?
Ah bah je sais
ça,
pas.
Ça c'est la grande question.
Je ne sais pas.
Ah si, Sam c'est Spock. Non,
lequel,
si,
attends, lequel est le sage et lequel est le gueulard?
Je dirais que je suis le sage.
Oh bah alors dis donc, t'as une...
Non mais c'est pas tant le côté gueulard, c'est vraiment le côté Sam qui est dans son truc, quoi, qui veut pas sortir de son truc. Grant Morrison, c'est bien. Bah, Matt Fraction, c'est pas bien. En fait, c'est logique.
Ça. Lequel de vous deux n'a pas d'émotion? C'est comme ça qu'il faut le voir.
Ah alors, ça sera Benny.
Oh non, mais au fait, j'ai remarqué un truc par rapport à Sam, c'est qu'il aime bien la drogue, il est sous drogue en fait. Il aime bien les trucs totalement psychédéliques, les épisodes de Snyder quand c'est psychédélique, il adore. Il adore Morrison, t'aimes bien Warren Ellis.
Ouais.
Oui, bah voilà, t'es à fond dans la drogue, si tu ne le sais pas.
Moi surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est qui est Uhura.
Alors, moi, je pense fais que pas c'est... de cosplay, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
Je pense que c'est King Ed. Hein.
Bon voilà, le mail c'est tout, c'est fini. Non, je déconne. ça aurait pu être drôle. Ce petit mail pour vous remercier de votre travail et de la qualité très pro de votre podcast. En effet, grâce à cause de vous, hein, on sait pas trop, j'ai repiqué aux comics et ce au grand désespoir de mon banquier. Mon premier contact avec le monde super-héroïque ne date pas d'hier. C'était pour être précis avec le Strange numéro 90 et j'ai décroché au milieu des années 90 pour reprendre épisodiquement en français sur certains titres, principalement Vertigo. Mon retour dans le monde merveilleux des comics ne s'est pas fait sans heurts ou incompréhension. What the fuck, Cyclops? Mais bon, au bout d'un an...
On se pose aussi la question, t'inquiète pas.
Et malgré une continuité disparue, le résultat s'impose, DC in, Marvel out. Pour être franc, je ne pariais pas un copec sur les New 52, et pourtant je n'ai jamais été aussi heureux de m'être trompé. Batman, une réussite. Green Lantern et Flash, toujours très bon. Wonder Woman, depuis l'époque Perez, elle n'a jamais été aussi intéressante. Earth 2, j'en suis même venu à les pardonner pour la disparition de la JSA originale, dont j'étais un fan hardcore, etc. etc. Bien entendu, tout n'est pas parfait. La caractérisation de Superman est, à mon goût, ratée, et le fait de l'avoir coupé de sa famille, entre guillemets, Lois, les parents de Kent, jusqu'au Daily Planet, est une grave erreur. Les Teen Titans, la quintessence de ce qui m'a fait arrêter les comics en deux mots. Creux et la moitié des personnages dont on n'a rien à cirer, mais j'ai bon espoir que ça s'arrange. Par contre, en ce qui concerne Marvel, c'est une blague. Fear Itself, où est-ce que j'ai mis mon flingue? AVX? Ah tiens, je l'ai retrouvé. Spider-Man, il n'est pas mort durant One More Time. Les X-Men, qui? Les Avengers, eux, lesquels? Les New, les Mighty, les Secret, les Illuminati ou encore les Uncanny? Wolverine? Tiens, ils l'ont cloné, pas possible d'être présent dans 90% de la production Marvel autrement. Nick Fury, j'ai dû rater quelque chose. Enfin, pour un X-Force ou un X-Factor de bon, combien de daubes sans nom polluent les linéages des comics shop? Trop. Marvel s'est perdu il y a longtemps. Mr. Alonso devrait faire attention en voulant ratisser large et en voulant coller de toute force à l'incarnation cinématographique de ses héros, à ne pas faire fuir les vrais fans au profit d'une nouvelle génération versatile sur laquelle Marvel va se casser les dents et faire de Marvel Now un Marvel No. Je terminerai par te poser, cher Steve, deux questions sur Urban. Ont-ils dans leur carton l'idée d'éditer les grands classiques comme Green Arrow, Longbow Hunter ou encore les Teen Titans de Wolfman et Perez ou ceux de Jeff Jones? Et pourquoi s'échinent-ils à rééditer les œuvres déjà parues en France?
Ah, mais alors, ce que je comprends pas, c'est qu'il te prend pour un mec qui bosse chez Urban, visiblement. Je sais pas pourquoi toi.
J'aimerais pouvoir répondre à cette question avec une certitude absolue. Malheureusement, je vais tout de suite te casser ton rêve. Rêve pas trop. À mon avis, tous ces vieux trucs-là, faut pas compter les voir de sitôt chez Urban. Ils font de temps en temps de la vieille réédition. On a la preuve avec notamment l'anthologie de Jack Kirby qui va sortir en décembre. Mais des gros runs comme ça, peut-être dans quelques années, mais en tout cas dans les 2-3 prochaines années, à mon avis, faut pas trop compter dessus, quoi. Là, ils se concentrent vraiment sur les New 52
et Batman.
Et Batman. Et c'est vrai que publier des anciennes choses risquerait peut-être de faire un peu peur au public. De toute façon, pour des choses...
À la rigueur.
Excuse-moi, je termine juste ma phrase, Benny, je te repasse la parole ensuite. Pour des choses comme Green Arrow, Longbow, Hunter, le problème, ce serait déjà qu'ils publient Green Arrow, New 52, même si la série n'est pas bonne. Et je pense que s'ils publiaient quelque chose de Green Arrow maintenant, les gens prendraient ça pour une histoire du New 52 et ça gueulerait sûrement. Voilà, donc je t'en prie, Benny, tu voulais dire quelque chose. Excuse-moi.
Ouais, je disais, à la rigueur, ils pourront peut-être publier du Batman, une anthologie avec des anciens épisodes de Batman. Ça, c'est pas impossible qu'ils le fassent, mais par contre, sur des personnages effectivement secondaires comme Green Arrow, ça m'étonnerait énormément.
À mon avis, les anthologies qu'on risque d'avoir avec Urban, ce sera sûrement des anthologies du type, comme je disais, celle de Jack Kirby, ou celle qu'on avait eue au tout début de leur publication, l'anthologie DC. Ouais. Des choses vraiment éclatées, avec un petit peu partout, sans forcément des séries en omnibus, quoi. Ce sera pas forcément ça, mais... ou en tout cas, pas pour tout de suite.
De toute façon, pour avoir une anthologie sur Green Lantern, malheureusement, il faudrait que le personnage soit vendeur, et je pense pas que ce soit encore le cas. Quoi.
Hormis le run de Jeff Jones, non, il n'y a pas des masses de choses. Quoi. Les Teen Titans de Perez et Wolfman, c'est vrai que ce serait très intéressant de les voir édités en français au lieu d'avoir à traquer des vieilles publications à Reddit Artima.
On les a eues chez Panini. Il y a eu 3 volumes qui n'ont pas du tout fonctionné.
Ils n'ont pas fini le troisième.
Deux de Wolfman et Perez.
Ouais.
Ouais.
Ah bah oui. Ah, je me rappelais pas, vous voyez.
80.
Dans les intégrales.
82, je crois, un truc comme ça.
Ouais.
Et voilà, c'est que s'il n'y a pas de public aussi, c'est vrai que ça va être difficile pour Urban de publier. Je pense qu'ils peuvent pas décemment essayer de faire plaisir à 3 personnes en France qui vont les acheter.
Ouais, faire la souscription.
Bah ouais, mais même de la souscription, il faut qu'ils atteignent quand même un certain nombre pour qu'ils soient rentables.
Oui, mais enfin, ça serait soumis à vote et qu'est-ce que vous aimeriez avoir et voilà quoi, proposer.
Espérons qu'un jour, ils essayent au moins ce type-là, d'abord en souscription, qu'ils fassent un premier test avec quelque chose qu'ils savent qui va remporter quand même assez de succès. Et puis ensuite, pourquoi pas tenter. Panini reprend la souscription petit à petit, donc pourquoi pas, pas.
Si tu permets, je voulais juste rebondir sur le mail de Eric, c'est ça ? Juste pour dire ce qu'il dit sur prenez garde, monsieur Alonso, car... si vous continuez dans cette voie à faire ressembler vos personnages aux personnages des films, je pense que c'est surtout Disney qui met la pression derrière pour que...
Non, je pense pas. Disney laisse la barque mener à Marvel.
C'est pas qu'il laisse la barque, il s'en fout. Hein.
Je suis pas sûr que...
Soyons clairs, la branche publication aux comics rapporte rien, et ils s'en tapent. Parce que c'est lu par... des gens qui lisent des comics depuis des années.
Ce qui les intéressait, c'était les produits dérivés, les films.
Voilà, c'était les noms. C'était les noms et les franchises qu'il y a derrière. C'était jouets, films et dessins animés. Les trucs qui rapportent vraiment du pognon. Voilà. Le reste, ils n'en ont rien à battre.
Okay. Enfin, moi, personnellement, de plus en plus, j'ai l'impression qu'entre Marvel et DC, c'est un peu le même combat. Hein. Si je faisais le compte des séries que j'aime chez Marvel et chez DC, je pense que je serais surpris de voir qu'il y a à peu près le même nom.
Deux
et demi. Ça dépend. Il y en a un qui sort tous les deux mois, c'est pour ça.
Non, je pense qu'il y a quand même, sur le mois, il doit y avoir une quinzaine, vingtaine de titres que j'aime bien lire, chez l'un et chez l'autre, et puis le reste qui est totalement mauvais, quoi.
Je vais terminer le mail de Eric. Donc, il dit « Je terminerai en m'adressant à toi, Sam, probablement le meilleur chroniqueur dans le monde du comics sur le net, qui d'une simple phrase résume un comics, c'est de la merde. Après vérification, il se trouve qu'effectivement, dans 99% des comics en question, tu as raison. Ouais. Analyse pertinente et néanmoins concise. »
Sinon, et c'est là.
Oui, pardon. Vas-y, je t'en prie, vas-y, Jean-Lo.
C'est là qu'on voit qu'en fait, c'est Sam qui a écrit le mail. Donc, Sam, on t'a reconnu, laisse tomber.
Sinon, en bon fan de Morrison qui se respecte, tu dois connaître son travail sur la Doom Patrol. Ce serait une bonne idée de souffler l'idée à Urban de le publier dans son anthologie Grant Morrison présente, ou bien encore Les Invisibles, un de ses meilleurs travaux à ce jour. Alors, moi, Les Invisibles, j'ai pas du tout aimé. Je sais pas si tu les as lus, Sam.
Toujours pas. J'ai essayé de commencer, mais j'ai jamais eu le temps. Parce que je lui m'avait bien plu. Et la Doom Patrol, j'ai pas encore eu le temps.
Moi, je suis en train de lire justement la Doom Patrol. Je suis pas encore arrivé à Grant Morrison, mais je m'en approche petit à petit. Mais peut-être un jour un spécial, sait-on jamais. Soyons fous, un spécial Grant Morrison où on sera tous drogués.
Non, on peut se granter.
Maintenant, ne croyez pas que je sois un fan hardcore du bonhomme. C'est de sa faute si j'en suis venu à arrêter de lire les X-Men ou encore Batman.
Ah non, c'était très bon, c'est Ron.
Il a énormément bon goût, ce monsieur. Mais je sais reconnaître quand il excelle. Sinon, Steve, je suis d'accord avec toi sur la continuité, qui fait, pour moi, le sel d'une histoire, et à 300% sur le foutage de gueule de DC, sur la première apparition de leur personnage, ridicule. Star Trek, même combat, et pourtant le film est sympa. voyez que je suis pas tout seul. Vous voyez, ça m'arrange, ça, oui, ça, ça, me, bon. Ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, ça m'arrange parce que j'ai pas l'impression d'être fou. C'est bien. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Longue vie à Comic City, à vos podcasts dont on devient très addictif. Encore merci à vous tous. Et surtout, bah, merci à toi, Eric, pour ce très long mail.
Non, mais c'est surtout, attends, c'est surtout qu'il n'y a pas que toi qui es fou, c'est tout.
Non, quand tu es seul, tu es fou. À deux, tu es déjà normal.
C'est tu peux monter un asile.
Tu es bien accompagné, c'est tout. Plus on est fou, plus on rit d'ailleurs. Mais regarde, voilà. T'es en train de te marrer.
Salaud. Tu m'as pris en traître là, je m'attendais pas à ça. Donc merci vraiment Eric pour ce mail.
Oui, merci. Faites
Eric, hein, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des mails. De toute façon, dans le Weekly News 18, donc celui qui sortira mardi, on a eu reçu pas mal de mails ces dernières semaines, donc on va essayer de rattraper un petit peu le retard que l'on a sur la lecture des mails à l'antenne. Donc on fera un bon passage mail. Vraiment, merci à tous de nous écrire autant ces derniers temps. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et ça nous fait plaisir aussi de pouvoir échanger avec vous, pouvoir répondre à vos questions, s'il y en a, ou simplement commenter les choses que vous nous dites. Parce que voilà, on aime savoir ce que vous lisez, ce que vous appréciez, ce que vous n'aimez pas aussi. C'est quelque chose qui compte vraiment à nos yeux.
Et si vous ressemblez à Zatanna, on aime aussi échanger avec vous.
pas que
Kingan
des paroles.
Qui n'est pas là, hein, Kingan qui n'est pas là, qui a, à mon avis, réussi encore à.
Ah bah on peut le dire clairement, il n'est pas là parce qu'il était au pute.
J'entends ce que t'allais dire. Ça fera plaisir à la personne chez qui il est peut-être.
Ouais.
Bah écoute, c'est son travail, hein, on va pas.
De quoi de
bah, non, mais il est au pute, oui, il a dit. Donc...
Ah,
bon, non, il y a une incompréhension, la totale.
C'est... Non, mais en ce moment, il est à Marseille, non? Parce que à Marseille, c'est droite au pute. Enfin, bon, bref.
Oh là là! Oh,
ok,
des
bon,
de fusil, genre... attention!
Ok, je vais y aller.
Mais on va tous y aller d'ailleurs, de toute façon. Ouais. Puisque c'est comme la fin de l'émission qui a été un petit peu plus longue que d'habitude.
On va tous aller au pute!
En tout cas, c'est pas moi qui régale, hein, je vous le dis tout de suite.
Pas moi non plus, je suis fauché.
On vous remercie, comme toujours, de votre assiduité. On espère vraiment que le problème de téléchargement des podcasts de ces derniers jours, enfin de ces deux dernières semaines, on va dire, est résolu maintenant définitivement. Normalement, ça devrait être bon, mais voilà. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises, auquel cas, vous n'entendrez pas ce message. Le truc qui sert à rien. D'ici là, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity, et bien sûr, nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Et pour les plus téméraires d'entre vous, ceux qui sont fous, qui ont énormément de temps à perdre, vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur iTunes. Ou sur le site, accessoirement aussi.
Et laisser des coms sur iTunes, parler de la nouvelle qualité audio qui est géniale, tout ça, pour faire monter la popularité du podcast.
Qui, j'espère, vous plaît. C'est un vrai cauchemar à monter, mais en tout cas, je pense que ça valait le coup. Bah, on vous remercie, on vous dit donc à la semaine prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, plein de bonnes lectures, plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Et surtout, portez des barésies pour faire plaisir à Kingad.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Et pour avoir la visite de Kingad.
Allez, bonsoir et à la semaine prochaine.
Allez, ciao ciao.
Ciao ciao.